Voilà un mois qu'il est hospitalisé. François poursuit sa thérapie respiratoire. Son état clinique reste stationnaire.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
En présence de Sylvie Berman, ancien ambassadeur, et de Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest-France. Sylvie, on reprend avec vous sur la question de savoir jusqu'où ira, selon vous, Vladimir Poutine.
Écoutez, pour le moment, il a beaucoup de mal avec l'Ukraine quand même, parce que au bout de 3 ans, il n'a pas réussi à récupérer l'essentiel du Donbass, qui était quand même sa priorité. Donc, je vois mal s'attaquer à des pays de l'OTAN. En revanche, il y a une menace qui est une menace cyber, une menace informationnelle. Et ça, bien évidemment, il faut s'en préserver parce que il n'aime pas l'Union européenne. Pendant longtemps, il parlait d'Occident collectif et en nous considérant comme des vassaux aux ordres de Washington, même si Washington, pour le moment, bon, est sur une autre ligne, mais c'est sans doute provisoire.
Cela dit, Emmanuel Macron a dit la même chose, hein, la vassalisation à l'égard des États-Unis, c'est aussi un terme qu'il a prononcé.
Oui, non, mais tout à fait. Mais ça, c'est effectivement l'idée d'avoir une défense européenne autonome. Et ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Mon premier poste d'ambassadeur, c'était de 2002 à 2005 à Bruxelles, comme représentante permanente, ambassadeur au comité politique et de sécurité, qui visait à mettre en place une défense européenne. On avait mis en place un certain nombre d'instruments, un comité militaire, un état-major, mais limité parce que les Américains et les Anglais n'en voulaient pas. Puis pendant des années, on a oublié la défense européenne. On en reparle aujourd'hui parce que c'est effectivement une de nos priorités, avec un lâchage tout à fait probable des États-Unis et puis effectivement, bon, une Russie qui est plus agressive. Quand on dit la Russie va se reconstituer ou reconstituer son armée s'il y a une trêve ou un accord, oui, mais donc c'est à nous de toute façon de constituer une force dissuasive et pas seulement nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les guerres sont sous le seuil nucléaire. Alors, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu d'intervention en Russie. Donc, c'est quand même protecteur pour celui qui est pour l'État doté. Mais il faut avoir des forces conventionnelles. Et pour le moment, on n'en a pas. Si je prends le cas de la France, on dit toujours que c'est une armée bonsaï. C'est-à-dire, c'est une petite armée.
Elle tient dans le stade de France.
Et de corps expéditionnaire. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, des interventions dans les Balkans, des interventions en Afrique. Mais même pour ça, on avait besoin du renseignement et de la logistique américaine. Donc il faut se doter de tous ces instruments qui nous manquent. Et puis, essayer de mutualiser au mieux les moyens de l'Union européenne, sachant que malheureusement, les Britanniques étant partis, alors que c'était la deuxième armée en Europe, de toute façon, on est obligé de faire appel à eux.
Dominique pose la question suivante, ou plutôt c'est une affirmation, je vous la livre. On peut comprendre que les Russes aient si peu confiance dans les Européens qui ont saboté les accords de Minsk. Est-ce vrai? Est-ce faux? Stéphane Vernet, Sylvie Berman.
Alors,
on aurait pu éviter cette guerre. C'est aussi une rhétorique qu'on a du côté des Américains. Hein. Si j'avais été en responsabilité, nous aurions évité cette guerre.
Du côté de Trump, mais cela dit, Angela Merkel disait la même chose, qu'elle aurait pu éviter la guerre en raison de sa relation avec Poutine. Je veux dire, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu l'isolement du Covid, il y a eu l'échec des Américains en Afghanistan. Parce que là, Poutine a pu se dire qu'il avait les mains libres. Il a une obsession sur l'Ukraine. Il considère que l'Ukraine est un pays artificiel, qui ne devrait pas exister, qui est un pays frère et qui devrait être membre de la Russie. Avec ces incidents, j'ai oublié la question.
Ce sont les accords de Minsk, en fait.
Ah oui, alors les accords de Minsk, je les connais d'autant mieux que la dernière année, j'étais médiateur de l'OSCE pour les accords de Minsk. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on se réunissait avec les Ukrainiens, les séparatistes et les Russes pour la mise en œuvre de cet accord. Mais ça a duré pendant 8 ans. Et je pense qu'en réalité, on n'a jamais à un niveau politique essayé de forcer les choses, sauf dans les derniers mois, mais c'était trop tard. Les Ukrainiens, en réalité, ils ne voulaient pas de cet accord parce que pour eux, c'est un accord de capitulation. Le but, c'était d'avoir un statut autonome, un retour du Donbass au sein de l'Ukraine avec un statut autonome. Et ça, ils avaient très peur que ce soit un cheval de Troie de la Russie. Maintenant, Angela Merkel, quand on lui a posé la question, parce qu'elle avait peut-être un sentiment de culpabilité, a dit « ça a permis à l'Ukraine de gagner du temps ». Elle n'a pas dit on a fait ça pour que l'Ukraine gagne du temps. Mais évidemment, Vladimir Poutine a dit, bah, je vous l'avais bien dit, les Européens sont des menteurs. Et François Hollande a dit à peu près la même chose. Mais en fait, la France et l'Allemagne voulaient vraiment la mise en œuvre de cet accord. Ils n'y ont peut-être pas mis les moyens, mais ils ne les ont pas sabotés.
Et qui les a sabotés alors ?
Ah mais aucun des pays, des pays concernés n'en voulait, comme je vous le dis. Bon, il y a eu des violations du cessez-le-feu, parfois ça a tenu pendant un an et demi. Évidemment, d'un côté comme de l'autre, on a cherché remettre un petit peu en cause ces accords. Mais comme je disais, l'Ukraine n'en voulait pas, parce qu'elle considérait que c'est des accords qui ont été adoptés à la suite d'une déroute militaire totale à Debaltseve. C'était un moyen de sauver l'Ukraine à ce moment-là.
On peut imaginer, c'est Biberman, et puis je vais poser la question à Stéphane Werner aussi, si on peut imaginer que le statut d'autonomie des territoires de l'Est soit refusé dans le cadre d'une négociation future, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas à cette disposition-là.
Alors moi je crois que les accords de Minsk sont morts. D'ailleurs, bon, la Russie effectivement l'a dit, mais parce que depuis ils ont pris davantage de territoires. Si on se souvient des accords bilatéraux passés en Turquie en avril 2022, il y avait des dispositions qui pouvaient être intéressantes pour l'Ukraine à ce moment-là, parce qu'il y avait des gels de territoire, ensuite des référendums ou autres. Mais c'est fini. Depuis que la Russie est sur une phase plutôt gagnante en Ukraine, je pense qu'on ne reviendra pas même à cet accord d'Istanbul. Il sera beaucoup plus difficile pour l'Ukraine.
Stéphane Werner, Sylvie Berman parlait d'armée conventionnelle. Le mot conventionnel, ça veut dire ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure. Au-delà de l'industrie de défense, il y a quand même une mobilisation de l'opinion qui doit prendre conscience que l'outil militaire doit aussi s'assortir d'une présence humaine. C'est ça que ça veut dire ?
Oui, il y a effectivement une mobilisation de l'opinion, c'est le bon terme. L'allocution du président de la République la semaine dernière avait cet objectif-là, en fait. C'est de faire toucher du doigt aux Françaises et aux Français la gravité de la situation et son urgence. Après, il n'est pas question, parce que vous parliez de mobilisation de réservistes, etc., il n'est pas question d'entrer en guerre, c'est pas ça la question. La question, c'est effectivement de redimensionner notre armée, et singulièrement l'ensemble des armées de l'Union européenne, et de les coordonner pour avoir pour pouvoir aligner une force à peu près équivalente à ce que pourrait construire ou reconstituer Vladimir Poutine d'ici 3 à 5 ans. Effectivement, il est tombé sur un os en Ukraine, et c'est pas la grande forme, mais ce que nous disent un certain nombre de services de renseignement à travers l'Union européenne, donc les Allemands, les Estoniens, les Danois, c'est qu'en fait, la trajectoire qui est la sienne et ses capacités militaires, en fait, vont augmenter et le mettront en capacité, en fait, de s'en prendre à ses voisins d'ici 3 à 5 ans. On est dans une échéance très courte. Il le fera pas si on est capable d'aligner, en fait, effectivement, une force conventionnelle qui soit à peu près dimensionnée comme la sienne. Et on ne peut pas le faire seul. C'est impossible. La France ne peut pas mobiliser 1 million, 1,5 million de soldats, 7 000 chars, on ne peut pas. Par contre, à l'échelle du continent, c'est tout à fait possible, à condition d'en avoir la volonté. Et de se donner les moyens.
Ça suppose de redéfinir les priorités budgétaires, quand même, non ?
Ah mais clairement, en fait. Alors, vous avez... Il y a plusieurs choses, si vous voulez. La problématique qui est la nôtre, c'est que si on parle de la France à l'échelle, enfin, à l'échelle du pays, on est dans une situation où nos finances publiques sont en mauvais état, notre dette atteint des niveaux très, très élevés, et aujourd'hui, on se dit il va falloir réinvestir massivement dans la défense. Ce qu'on fait, nous, les Français, par rapport à nos voisins, depuis longtemps, en fait, hein, c'est-à-dire que depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, il y a quand même eu un certain nombre de plans et de réinvestissements, on a redonné des moyens aux armées, et l'armée française se porte pas si mal, même si l'armée française se porte beaucoup mieux,
comparativement,
et en bien meilleur état que la plupart de nos voisins, y compris les Britanniques, en fait, hein, donc qui eux ont des trous dans la raquette. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on a des échéances assez phénoménale en termes de finances et de budget. Il y a l'État-providence, toute la protection sociale à maintenir, à entretenir. Vous avez tout le débat sur les retraites aujourd'hui, mais pas que. Vous avez le mur des investissements que représente la transition écologique. Et là, on va avoir des besoins, énormément d'argent mobilisé. Et il y a cette question de la défense qui réémerge, où vous avez, par exemple, le ministre des Armées qui nous dit, voilà, on est à 50 milliards de dépenses opérationnelles par an aujourd'hui en France, il faut passer à 100 milliards, il faut doubler la dépense.
Donc il va falloir préférer les missiles aux éoliennes.
À un moment, il va falloir faire des choix. C'est ce que disait Emmanuel Macron la semaine dernière, quand il parlait, il disait, il va falloir faire des choix, c'est une question de courage, etc. Et la problématique, c'est qu'il dit, dans la même intervention, il dit, il faut doper la défense, en gros, sans augmenter les impôts. Alors, à partir du moment où il pose ce préalable-là, on a un problème. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement faire des choix. On ne peut pas, compte tenu du contexte budgétaire qui est le nôtre, financer à la fois l'État-providence, à la fois la transition écologique et à la fois le réarmement du pays et une défense européenne.
Qu'est-ce qu'on sacrifie ?
Ah bah, c'est toute la question et c'est tout le débat aujourd'hui. Vous avez des cette question là se pose pas qu'à la France. Vous avez les Danois qui ont déjà fait un choix qui est assez spectaculaire, c'est de dire on ne peut pas tout faire, mais on a bien conscience qu'on a une problématique sur la défense et qu'il faut investir massivement dans la défense. Et au Danemark, ils ont décidé de reculer l'âge de départ à la retraite à 70 ans. Je pense que nous on n'est pas mûrs pour ça,
mais ça, c'est un effort de guerre.
Non, mais clairement.
Mais l'effort de guerre permet de faire passer beaucoup de choses, alors.
Ben oui, mais en même temps...
C'est difficile d'argumenter face...
D'accord, mais il y a un principe de réalité. Vous avez le débat aujourd'hui en France, il se pose aussi en d'autres termes. Vous avez notamment toute la gauche, les écologistes, etc., qui disent, non, mais on peut aussi trouver des financements et dégager des financements sur la défense sans obérer l'État-providence et le financement de la transition écologique, à condition de lever de nouveaux impôts.
Donc voilà, oui, mais si on ne lève pas d'impôts.
Non, mais il y a tout un.
Il y a. Voilà.
S'il n'y a pas,
si c'est le préalable présidentiel.
Il faudra faire d'autres choix. Il faudra tailler ailleurs, etc. Ou il faudra redimensionner les choses. Évidemment. Ou mobiliser de nouveaux types de financement, en fait. Sur du privé, sur du. Enfin. Il y a plein de choses à inventer. Et tout ça va alimenter notre débat public, là, dans les mois, les années qui viennent. Juste termine. Je suis trop long, je suis désolé. Mais juste un mot. Je pense qu'un des risques qui peut être le nôtre, c'est que. Imaginons qu'il y a un accord de paix qui soit trouvé et qui soit durable au niveau entre la Russie, l'Ukraine, ce que je souhaite éminemment. Parce qu'il faut trouver, il faut mettre un terme à cette guerre. Le risque, si vous voulez, entre guillemets, c'est que l'opinion se retourne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien compris la nécessité qu'il y a à réarmer l'Europe, mais que si, en cas de paix, les gens se disent, bah finalement, ouf, c'est bon, c'est passé, le danger est écarté. Donc on a d'autres priorités, on va faire machine arrière, c'est plus redonner une armée conventionnelle hyper dimensionnée très forte à l'Europe n'est plus l'urgence, et donc on oublie. Et là, je pense qu'on va avoir un vrai sujet, parce que encore une fois, en face, vous avez un Vladimir Poutine qui lui va continuer à redimensionner ses moyens et son armée, et qu'à terme on aura un problème. Donc l'urgence va rester sur la question de la défense européenne. Il faudra pas mollir à ce moment-là. Or, ce débat-là, je pense qu'il va vite s'imposer.
Pas facile, sachant qu'une dynamique est en perte de vitesse, c'est celle de la réindustrialisation de la France, qui a nettement ralenti en 2024, nous dit le baromètre industriel de l'État qui a été dévoilé hier. Réindustrialisation qui a reculé en termes de création nette de nouvelles usines pour la première fois depuis l'apparition en 2022 de cet indicateur. Donc le contexte, de ce point de vue-là, n'est pas non plus favorable pour aller dégager peut-être des recettes fiscales supplémentaires ou simplement de la croissance et donc de l'argent disponible, Sylvie Berman.
Oui, tout à fait. C'est probablement en France que le contexte est le plus difficile. Et puis, vous avez toujours une contradiction chez les Français. C'est-à-dire que si vous avez un sondage, ils vous diront « on est favorable à un réarmement ». Est-ce que vous voulez payer pour le réarmement ? Non. Donc, il va falloir effectivement trouver d'autres sources. Ce qui a été évoqué, c'était le recours à l'épargne. Et c'est-à-dire en ayant un plan, un emprunt national pour la défense, et qui serait évidemment volontaire. Donc ça, c'est une des pistes, ça peut être le cas aussi au niveau européen, Mais on a ce problème, effectivement, en ce qui concerne les retraites. On est le pays, je crois, en Europe qui travaille le moins longtemps. Et en plus, l'aspiration d'un certain nombre de partis est de revenir à une retraite à 60 ans, ce qui, en fait, ne tient pas la route.
Ce qui est le cas surtout des retraites du public, hein, qui sont déficitaires. Pas les retraites du privé. En tout cas, là, il y a quelques statuts qui, peut-être, tremblent un petit peu plus que d'autres. Stéphane Vernet, la question des retraites ne se pose pas de la même manière pour tout le monde.
Oui, alors, enfin, c'est aussi, là, on parle aussi d'un modèle de société. Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen? Alors, en France...
Enfin, le privé est plus aligné sur la moyenne européenne que ne l'est le public.
Oui, non, mais clairement. Mais enfin, toute la problématique des surcotisations pour l'État par rapport à ça. Mais vous savez que la surcotisation.
Les militaires en particulier.
Exactement. Donc en fait, la boucle est bouclée. On revient au problème. C'est-à-dire que. Je pense que moi, si vous voulez, je vais répondre à côté, mais je pense que la période qu'on est en train de vivre est une période de changements énormes, radicaux, fondamentaux, et c'est aussi un nouveau modèle de société qu'il faut penser dans un nouveau contexte. Et je pense que ça augure de débats qui vont être passionnants et qui seront cruciaux. Et donc, il faut aussi qu'on se repose la question collectivement de savoir quelle est la part de notre budget, de nos moyens qu'on veut mobiliser pour financer notre modèle social. Mais la retraite, mais pas que la retraite, la sécurité sociale, est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer? Quels sont les choix qu'il faut qu'on fasse? Et je pense que ça, c'est possible de le faire à condition que ce soit dans le cadre d'un débat, d'une concertation publique. Si les décisions, elles se prennent de manière brutale, parce qu'aujourd'hui, on est au pied du mur, et que donc, on a un pouvoir qui tranche dans le vif en disant bah, « c'est comme ça, et c'est pas autre chose », ça ne passera pas. Par contre, à mon avis, il est urgent qu'on se donne le temps de repenser les choses sur le fond. Aujourd'hui, on consacre, je crois que c'est 14% de produit intérieur brut au financement des retraites au global. C'est plus que nos voisins. Vous avez des gens qui vous diront, bah oui, mais c'est essentiel et c'est pas, il faut maintenir ce cap. Est-ce qu'on peut l'ajuster? Est-ce qu'on peut inventer de nouvelles formes de financement des retraites dans le conclave entre guillemets qui a lieu en ce moment autour des retraites? Vous avez par exemple l'idée de faire appel à une part de capitalisation. Donc voilà, il y a peut-être des innovations, il y a peut-être des choses, et
c'est le moment d'être inventif.
Exactement.
D'un point de vue de politique politicienne, de calcul politique, aujourd'hui Emmanuel Macron est dans une phase difficile dans la mesure où il n'a pas de la main vraiment sur le Parlement. Est-ce que cette situation internationale lui donne la possibilité de s'épanouir à une autre échelle? Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à faire durer d'une certaine façon ce moment, même si aujourd'hui on n'en a pas la fin et qu'on ne peut pas prévoir? Est-ce que ça ne lui est pas favorable finalement pour occuper le terrain jusqu'à 2027, Sylvie Berman?
C'est très clair, il est revenu sur la scène internationale, il est allé voir Trump, il avait d'ailleurs, au moment de la réouverture de Notre-Dame, organisé une réunion entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il s'implique très fortement dans la mise en place de garanties de sécurité. Il a vu je crois qu'il y avait 32 chefs d'état-major étrangers à Paris. Oui, et bien sûr, ça lui donne un rôle parce que il est en fait en Europe le plus expérimenté pour le moment. D'abord, le nouveau chancelier allemand n'a pas encore sa coalition. Et puis en termes militaires, les Allemands ne peuvent pas être comparés, effectivement, pour des raisons historiques, aux capacités françaises. Donc faire durer, ça lui appartient pas en réalité, parce que, comme je le disais, malheureusement, pour le moment, les Européens sont hors jeu sur la négociation d'un accord lui-même.
Comment ça se fait d'ailleurs, quand même ? Sylvie Berman.
C'est très simple, c'est que les Américains, enfin Donald Trump nous méprise, et non seulement nous méprise mais nous déteste. On l'a vu avec les 200% de taxes sur vin, spiritueux, champagne, etc. Vladimir Poutine nous déteste de la même manière. Donc, comme pour le moment, la Russie gagne sur le terrain, que Donald Trump est tout puissant, et dans un esprit de revanche, il fait tout ce qu'on lui a interdit de faire pendant son premier mandat. Parce que pendant son premier mandat, il a eu un procès en illégitimité de la part des démocrates qui ont dit qu'il était élu grâce aux Russes. Bon, un rapport a montré que ce n'était pas le cas. Et certes, il y a eu des ingérences russes. Et souvent, son administration elle-même l'empêchait de faire ce qu'il voulait faire vis-à-vis de la Russie. Eh bien, maintenant, il le fait. C'est-à-dire, il veut aller à Moscou, il veut inviter Poutine à Washington, il veut l'inviter au G7. Ça ne marchera pas parce que les autres Européens ils sont opposés, mais il n'empêche que qu'il a cela en tête. Et moi, je me souviens que pendant son premier mandat, il a dit que les pays européens étaient des ennemis pires que la Chine et qu'il allait s'attaquer à eux après. Et ben, c'est exactement ce qu'il est en train de
faire.
Mais
il y a une chose que je ne comprends pas parce que je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais l'Europe a donné, les pays européens ont donné autant à l'Ukraine, voire plus que les États-Unis.
Oui, mais sur ce que donnent les États-Unis sur le plan militaire est beaucoup plus important que ce que donnent les Européens.
Mais quand on dit on ne veut pas de tel ou tel interlocuteur à une table de négociation, qui décide qu'on ne veut pas d'eux dans la mesure où si on a un rôle central, on s'impose par le fait même ? Pourquoi, je ne sais pas, moi, pourquoi Kaja Kallas qui représente l'Union européenne, pourquoi n'est-elle pas de fait, de par le financement qui a été le nôtre, hein, je dis le nôtre au sens des pays européens qui ont contribué, pourquoi n'était pas de fait au milieu des négociations?
Mais parce que tout est une question de rapport de force, et aujourd'hui la force prime sur le droit, et l'Union européenne n'est pas en mesure, par exemple, la question a été posée, si les Américains retiraient totalement leur aide, est-ce qu'on pourrait les remplacer? Et la réponse est non, et elle est très claire. Et c'est pour ça que Volodymyr Zelensky accepte plus de force que de gré la proposition américaine. Quant à Kaja Kallas, le problème quand même, c'est que, étant estonienne, elle est évidemment complètement récusée par la Russie. Et venant d'un petit pays, vous imaginez bien que les Américains n'ont aucune considération pour elle. En plus, non seulement ils détestent les pays européens, mais ils détestent l'institution européenne. Et quand elle est allée à Washington, Marco Rubio, qui est secrétaire d'État à la Défense, ministre des Affaires étrangères, ne l'a pas reçue. Donc ça dit tout.
Quand même, Stéphane Vernet, c'est un problème pour l'Europe, ça.
Non. Oui, mais moi je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. En fait, la problématique, elle est là, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, il faut bien voir qu'on est face à deux entités, les Américains et les Russes, qui veulent démanteler l'Europe, qui veulent l'affaiblir, qui veulent la vassaliser. Enfin, le projet est très clair.
Comment faire pour exister ?
C'est-à-dire que c'est effectivement un rapport de force. Si la question, c'est de savoir pourquoi les Européens ne sont pas à la table des négociations, c'est simplement parce que, effectivement, aujourd'hui...
Alors qu'ils payent, hein.
Non, mais bien sûr qu'ils payent, mais le problème, c'est la livraison de matériel. C'est-à-dire qu'il y a une question, c'est celle de l'argent, mais il y a aussi ce qu'on est capable de produire et de livrer aux Ukrainiens pour les aider à soutenir leur effort de guerre. Les Américains ont du matériel en stock, ont des munitions, ont des moyens qu'on n'a pas en Europe. Et c'est aussi pour ça que la question de relancer l'industrie de défense à l'échelle européenne est cruciale. Mais ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 1 jour. Donc quand les Américains disent nous, on gèle nos livraisons d'armes à l'Ukraine, l'Ukraine est en danger de mort. Et c'est la capacité des Européens est insuffisante à compenser cet arrêt. Donc ça donne un poids phénoménal à un Donald Trump qui peut dire « Moi, je discute avec les Russes en direct et j'en ai rien à carrer des Européens. Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Il y a une réaction des Européens qui consiste à dire « Il faut que les Ukrainiens soient associés aux négociations, il faut que les Européens soient associés aux négociations », sauf que le rapport de force est tel qu'en fait, on n'est pas en capacité de s'imposer à la table des négociations. Voilà, c'est tout.
Donc on n'a plus que nos yeux pour pleurnicher. C'est un peu ça,
non, mais c'est-à-dire que si on prépare l'avenir, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même des pressions diplomatiques. Il se passe quand même des choses extraordinaires. Je veux dire, vous avez une réaction de l'ensemble des Européens qui est quand même quasi unanime, à l'exception de Viktor Orban. Enfin bon, mais vous avez quand même une mobilisation européenne qui fait qu'il se passe quelque chose. Il y a un poids des Européens. Vous avez les Anglais qui reviennent dans le jeu quand même, parce que eux, on comprenne très bien les enjeux et en fait, ils voient très bien la menace que représentent les Russes pour l'avenir. l'avenir. Et il voit très bien le fait que les Américains les ont complètement, les négligent depuis des années. Il n'y a plus de relations privilégiées entre les Anglais et l'Amérique. C'est terminé, en fait. Le monde est en train de changer et vous avez quand même un sursaut européen et il y a une capacité des Européens aujourd'hui à se réinventer, à se reconstruire et à se réaffirmer. Donc tout ce qui est en train de se passer, c'est pas juste... Il y a quand même du très positif dans cette histoire. Il faut voir le verre à moitié plein dans cette affaire.
C'est votre cas aussi, Sylvie Berman ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qui vient d'être dit. Il faut préparer l'avenir. Malheureusement, d'une certaine manière, on a raté le coche pour l'Ukraine. Maintenant qu'on est davantage conscient de la situation, de nos lacunes, effectivement, il faut prendre des décisions que jusqu'à présent... les autres Européens ne voulaient pas prendre. Vous savez que la première ministre danoise avait dit il y a encore quelques mois qu'elle se sentait évidemment beaucoup plus proche de Washington que de Paris ou de Berlin. Aujourd'hui, alors que les Américains menacent d'occuper le Groenland, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, je veux dire, elle perçoit les choses de manière différente. Et en matière de défense européenne, ce qui est intéressant, c'est que le Danemark avait une exemption sur la défense européenne et qu'il y a eu un référendum et que le Danemark, maintenant, en est parti, mais depuis, est parti aux dispositions en matière de défense européenne. Mais depuis quand ? Depuis 2022, depuis la guerre en Ukraine. Donc ces deux, comme on dit, wake up call en anglais, un peu coup de semonce, c'est l'agression russe contre l'Ukraine et puis les dispositions de Donald Trump, Biden ayant été l'exception et non pas l'inverse comme on le pensait. On se dit, oh, bon, Trump c'est 4 ans, ça va pas durer, Biden c'est très bien, mais c'est le dernier européen d'une certaine manière, Joe Biden, et comme ça a été dit tout à l'heure, Obama n'était pas pro-européen.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sylvie Berman, ancien ambassadeur, et merci à Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest-France. Le grand débat, le débat du jour, c'est entre 9h et 10h. Chaque matin, je vous retrouve évidemment lundi. Et bonjour Melchior Gormand.
Bonjour Louis Dauphine, bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, pour finir la semaine, je pense, donc j'agis d'ailleurs comme tous les jours de 10h à midi avec Vincent Bellotti. Dans un instant, on va parler des parents handicapés. Comment font-ils pour jouer à plein leur rôle de père ou de mère ? On va en parler dans un instant avec nos invités, puis bien sûr avec vos appels dès maintenant au 04 72 38 20 23. A tout de suite.